Axel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick,
bonjour,
bonjour
Jimmy.
À tous. Bonjour Jimmy. La technique.
Et la technique est importante.
Très importante.
Elle nous aide aussi à circuler en ce temps qui sent un peu l'automne quand même.
Ah oui, il y a du brouillard quand même.
Il y a un peu du brouillard, il y a de la pluie, il y a parfois du soleil. C'est une saison un peu étrange, mais ça ne fait rien. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons présenter, on va dire, on ne sait pas trop dire comment. On va vous proposer plutôt deux poèmes.
Un peu de poésie.
Un peu de poésie dans ce monde un peu hard et difficile, un peu hard et tout. Un peu de poésie pour se reposer. Nous allons puiser dans le registre de la poésie d'Outre-Rhin. Mais nous aurons deux jolis poèmes qui sont bien sûr traduits depuis fort longtemps. Avec deux titres un peu évocateurs, le premier étant « Dans le brouillard ». Nous sommes dans le brouillard un peu tous les jours maintenant. Oui. Et puis le second, car il n'y a pas de troisième, c'est donc « La ville », un auteur qui écrit sur une ville. Ça peut être sa ville natale, c'est le cas, ou une autre ville. Le premier poème, « Dans le brouillard », est dû à qui, Gisèle ?
À Storm.
Le premier.
Hermann
Hesse. Alors Gisèle va le prononcer à la française.
Oui, parce que je ne connais rien à l'allemand.
Mais oui. Alors ça fait donc Hermann Hesse. Et puis je vais me permettre de franchir le Rhin et de me rappeler mes cours de prononciation, etc. Donc le Hermann va devenir Hermann.
Hermann,
il y a le H.
D'accord.
Et comme en allemand toutes les lettres se prononcent, ça ne sera pas S, ça sera Hesse.
D'accord.
S, bref, voilà.
Et oui.
Et puis le deuxième texte, le deuxième poème, c'est de qui donc ?
Storm, voilà.
Théodore Storm. Voilà, je dirais en allemand Théodore Storm. Storm. Comme la tempête en anglais, storm. Mm. Voilà. Ça va très bien puisque nous allons évoquer la mer du Nord. La mer du Nord qui est aussi une mer de mort, disaient les marins allemands et hollandais.
Parce qu'elle est grise déjà.
Elle est déjà grise, oui. Et puis quand il y a des tempêtes, elle est rude, la mer du Nord. Puis elle est froide.
Très froide.
Comme la Baltique aussi. Oui. La Baltique dont on parle ces temps-ci, c'est une mer qui est aussi très très froide, avec des fonds mystérieux.
Oula.
Comme le brouillard. Alors, commençons avec la poésie de Hermann Hesse, Im Nebel, en allemand Im Nebel, Nebel, qui donne le français nébuleux, nébulosité. Alors, première strophe et deuxième strophe pour Gisèle.
Comme c'est étrange de marcher dans le brouillard, solitaire est chaque buisson, chaque pierre, aucun arbre n'aperçoit son voisin, chacun est bien seul. Le monde était pour moi plein d'amis quand ma vie se déroulait dans la lumière. Maintenant que le brouillard est tombé, je ne distingue plus aucun d'eux.
En vérité, personne n'atteindra la sagesse s'il ne connaît aussi les ténèbres, qui, en silence, inexorablement, le sépare de toute chose. Comme c'est étrange de marcher dans le brouillard. La vie tout entière est solitude. Nul ne connaît son prochain, chacun est bien seul. Voilà ce poème qui est important dans l'œuvre de Hesse. Est important dans le brouillard. Alors, si vous voulez, vu que les chers auditeurs n'ont pas le texte sous les yeux, on va reprendre peut-être strophe par strophe pour se situer. Comme c'est étrange de marcher dans le brouillard. Rien que cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle nous inspire ?
On a l'impression qu'on va dans l'inconnu.
On a l'impression que l'on va dans l'inconnu. Ensuite, peut-être aussi.
On a l'impression que c'est aussi une certaine solitude. Parce que comme c'est étrange de marcher, alors que si on est plusieurs, on est plus solidaire, en fait. Mais là, je pense qu'on est tout seul, là, dans ce poème.
Et c'est étrange. Pourquoi c'est étrange ? C'est curieux ?
Parce qu'il ne reconnaît plus rien. On ne reconnaît plus rien quand on est dans le brouillard.
Ah, oui. D'ailleurs, brouillard, il y a le mot brouillé. aussi, on retrouve le mot brouiller. Oui, oui. Ça devient d'un vieux mot que l'on trouvait dans le Berry aussi, la brouée.
À brouée, oui.
Et le germanique aussi, qui veut dire vapeur, une certaine vapeur limpide. Brodem en vieil allemand et brode en anglais aussi. Donc une sorte de vapeur qui vous entoure. Et on parle aussi en histoire du brouillard de la guerre. C'est-à-dire,
oui, parce que c'est tout nébuleux là, vraiment.
C'est tout nébuleux. Oui, oui, oui. On ne voit pas très bien les aboutissants, les manœuvres. Donc on reparle maintenant.
On est un peu dans l'inconnu en fait.
Dans l'inconnu.
On est un peu dans l'inconnu.
Dans l'inconnu, que ce soit le jour ou la nuit, c'est pareil.
Oui.
Comme c'est étrange. Donc l'auteur tout de suite, on pense que lui-même marche peut-être.
Bah, sûrement.
Il est en train de marcher.
Il connaît bien le paysage,
oui.
Mais c'est vrai que dans le brouillard, on ne reconnaît plus rien.
On ne reconnaît plus rien et les personnes deviennent des silhouettes.
C'est ça.
Et tout
quand
est gris,
on arrive à les voir.
Quand on arrive à les distinguer. Autrefois, dans notre région, Lyon par exemple, vous aviez beaucoup de brouillard dans l'enfance.
Ah oui.
Vous n'avez
oui.
pas une anecdote de camion qu'on devait guider? Et si, c'est important, parce qu'on ne s'en rend
oui,
pas bien compte
parce que
maintenant.
Quand j'étais enfant,
oui.
C'était l'entreprise qui s'appelait Berlier, qui est devenue
oui.
maintenant Renault.
Oui,
mais
Renault Trucks.
Mais il faisait des camions.
Des gros camions.
Et le matin, il partait chercher les ouvriers
oui.
dans les campagnes. Il faisait un ramassage dans toutes les campagnes environnantes de Lyon.
Oui.
Il récupérait les ouvriers pour qu'ils travaillent dans l'usine.
Mm-hmm.
Et puis le soir, il les ramenait chez eux.
Oui.
Et moi, je me souviens de certains soir, on était enfants, moi j'étais avec mes cousins, on voyait passer cette cohorte de camions, enfin de cars, c'était dans des cars. Qui ramenaient les ouvriers chez eux dans
oui.
leur village respectif,
oui. Oui.
et qui, tellement le brouillard était intense, il y avait une personne qui marchait devant avec une espèce de pile ou je ne sais pas un truc.
Une lampe de poche.
Non,
quoi.
Non une tempête, une lampe tempête en
voilà,
fait. Hein.
Une torche.
Et pour montrer le passage, et il marchait vraiment,
ah
et,
oui.
et les cars derrière roulaient tout doucement,
ah
tout
oui.
doucement, parce que c'était l'inconnu total, tellement il y avait de brouillard.
Voilà. Je me souviens, moi personnellement, je me souviens souvent avoir traversé, pour ceux qui connaissent Lyon, la passerelle Ampère
oui, oui.
sur le Rhône. Et il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait pas le Rhône.
C'est ça.
On avait l'impression que cette passerelle, qui existe toujours, était suspendue dans le vide.
C'est ça.
Et ça faisait
c'est impressionnant.
Et la rumeur de la ville a arrivé avec un son comme si c'était
étouffé, ou hâté
un petit peu.
C'est ça.
C'est très curieux.
Mais ça vient du brouillard, hein, c'est vrai.
Bien sûr. Alors, c'est étrange de marcher dans le brouillard. Il ouvre ce poème par cette étrangeté. Solitaire est chaque buisson. Ah, il n'y a pas de personne, là.
Mais
y a
non,
des...
puis, mais moi, je pense qu'il veut dire que le buisson, il ne peut pas communiquer avec son buisson proche.
Forcément.
Il ne le voit pas.
Ouais.
Donc, en fait, il imagine dans la nature que c'est un peu comme les humains.
Ils sont isolés.
Ils sont très isolés. Oui.
Solitaire est chaque buisson, donc un peu de nature, et chaque pierre.
Oui, c'est ça. Oui.
Les pierres, ça veut dire que peut-être que les pierres ont un âge beaucoup plus lointain, beaucoup plus profond que le buisson. Depuis la nuit des temps, on pourrait dire que cette pierre reste toujours isolée dans le brouillard.
Oui,
là, c'est du dur, si on peut dire. Aucun arbre n'aperçoit son voisin.
C'est ça. L'arbre qui est à côté, il ne le voit pas. Comme nous, oui.
Tout
on ne voit
fait.
Pas le voisin.
Et il termine, chacun est bien seul. C'est la conclusion.
Oui,
chacun
c'est ça,
est bien
oui,
seul.
Oui.
Donc, solitude, on pourrait dire.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, oui, oui.
Solitude. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Peut-être mouvement, parce qu'il marche.
Oui.
Oui,
oui mais en fait, dans le brouillard, il ne se rend même pas compte. En fait, je crois qu'il est un peu dans son monde.
Tout est faussé un peu.
Mais c'est ça. C'est ça.
Voilà. Tout est brouillé. Chacun est bien seul. Et il insiste avec ce « chacun est bien seul ».
C'est la vérité.
Voilà, c'est une constatation. Le monde était pour moi plein d'amis. Sans faire une analyse, qu'est-ce qu'on voit? Le verbe à l'imparfait.
Oui.
Alors.
C'est-à-dire qu'il parlait d'avant, quand il était enfant, je pense.
Oui.
Et alors, après, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait redire dans son poème, mais je pense que c'est sa vie qui déroule. Parce que quand on a la suite du poème, on s'aperçoit que là, il parle de l'enfance, et petit à petit, il s'approche un peu de la mort.
Oui, le berceau s'éloigne
du tombeau,
et le tombeau se rapproche.
Voilà.
Oui. Mmh. Donc, le monde était pour moi plein d'amis.
Et oui, parce que c'était la jeunesse, c'était...
Oui.
Il y avait l'échange avec les autres, en fait.
Il a eu une jeunesse heureuse.
Il était assez solitaire quand même. Parce
qu'il est de quel coin d'Allemagne ?
Il est de... Alors, je ne sais pas comment on dit en Allemagne.
De
Calve. Alors, je ne sais pas. Voilà.
En forêt noire.
C'est en pleine forêt noire.
C'est très joli.
Voilà, voilà, il est en pleine forêt noire. Mmh. Et il vit dans une petite maison avec ses frères et sœurs. Sa famille est quand même... ils sont des missionnaires.
Des missionnaires protestants.
Protestants. Oui. Et ils ont quand même une rigueur, ces gens-là.
Oui.
Donc, je pense qu'il malgré tout, il partageait quand même quelque chose, puisqu'il parle de ses amis. Donc, il devait avoir quand même des amis. Mais il était dans une mission, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, c'était les amis avec les parents étaient aussi ensemble. Donc, je pense qu'il ne devait pas tellement faire de bêtises, quand même.
Non, ça devait être un peu strict,
on va dire.
Ouais,
oui.
Aussi bien, et les parents parfois partaient aux Indes, non ?
Oui, ben, ils se sont rencontrés aux Indes parce que sa maman est née aux Indes.
Tout à fait.
Elle est née là-bas, oui.
Et oui, donc c'était des missions, ils étaient envoyés en mission.
Ils allaient en mission, oui.
Donc le paysage des Indes n'avait rien à voir avec la forêt noire.
Ah non.
Mais peut-être que là-bas aussi on peut trouver la solitude, même si on a plein d'amis.
Oui.
Peut-être. Ce monde était pour moi plein d'amis, donc il emploie l'imparfait. On se dit, il y a un changement peut-être dans sa vie. Quand ma vie se déroulait dans la lumière. Ah, un peu de lumière.
Oui.
Cette vie qui se déroule dans la lumière.
Mais parce qu'il était jeune à l'époque, donc tout était bien. Donc c'est ça la lumière.
Avec beaucoup de possibilités, ouverture d'esprit, possibilité de voyager.
Ah mais ça c'est plus tard.
Il a eu
le rêve de voyager quand même. Hein. Il a voyagé quand même.
Oui, très tôt, il voulait partir.
Voilà, oui.
Il voulait partir. Et sa vie se déroulait comme dans la lumière, comme si elle était éclairée, comme si elle était fixée d'avance, comme si on avait déjà repéré les divers chemins qu'il pourrait emprunter. Il était dans la lumière.
Oui.
On trouve un peu le côté religieux qui apparaît.
Toujours,
La lumière, car tous les matins ou le soir, on lisait la Bible à la maison.
Bien sûr.
Voilà. Comme l'autre auteur que nous verrons tout à l'heure, Storm, il y avait le moment où on lisait les Écritures à midi,
ou
le matin et le soir. Voilà.
C'était la Sainte Bible.
Le livre où on avait appris à écrire
et
à lire. S'enrichir de vocabulaire. Le monde était pour moi plein d'amis. Quand ma vie se déroulait dans la lumière. Maintenant, on retrouve le présent, que le brouillard est tombé. Et ce brouillard, on peut l'appeler comment maintenant, peut-être ?
Vieillesse.
Vieillesse. N'oublions pas que Hesse a fait une éloge de la vieillesse.
Ah oui,
il est en livre de poche en France.
Oui.
C'est un très joli livre, très intéressant, qui donne beaucoup d'espérance, d'espoir, de patience et de force quand même. Il faut savoir puiser ce que l'on peut en tirer. Ce n'est pas tout noir, c'est pas tout blanc.
Non, c'est pas tout noir, mais
c'est un peu gris comme le brouillard ou la mer.
Oui.
Maintenant que le brouillard est tombé, je ne distingue plus aucun d'eux.
Il voit de moins en moins.
Oui, il voit, peut-être préfiguré aussi, peut-être.
C'est ça, oui.
Et les amis sont partis.
Voilà,
ou bien,
petit à petit, oui.
On se retrouve isolé comme tout être humain à nos âges, je voudrais dire, presque. Donc, il fait appel à la nature, et puis la lumière, le brouillard qui est tombé, et puis aussi le brouillard qui tombe, on n'entend plus rien aussi.
Oui, les sons sont assombris, en fait, on entend.
Assombris, c'est assourdi.
Assourdi, je cherchais le mot.
Mais il y a les deux, assombri aussi. On est un peu plus isolé.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
D'isolement.
Oui, on
est vraiment dans le brouillard.
Tout à fait dans le brouillard.
Mais ensuite, il nous dit en vérité. En vérité, on le trouve, cette expression, dans les Écritures. En vérité. Personne n'atteindra la sagesse s'il ne connaît aussi les ténèbres. Éclairez-nous là-dessus.
Je ne sais pas.
Aussi.
C'est peut-être un peu impressionnant.
Non.
Oui, parce qu'en fait...
Il y a la sagesse opposée aux ténèbres.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est véritablement opposé, mais en fait, je pense que son poème, c'est un bilan de vie, parce qu'on s'aperçoit qu'il dit que de toute façon, à un moment, il est dans le brouillard, parce qu'il sent qu'il perd ses forces et qu'il vieillit. Donc, il fait un peu une espèce de bilan de sa vie, en disant qu'il était, quand il était jeune, il avait des amis, qu'il les a perdus de plus en plus, et que maintenant, il perd la vue. Et puis, voilà, c'est ça, c'est que petit à petit, il s'aperçoit qu'il ses moyens diminuent.
Ses moyens diminuent, il n'a plus la vie qu'il avait autrefois.
Mais bien évidemment, bien évidemment.
Plus de voyages à l'étranger, plus de
réunions.
Voilà,
alors que lui a beaucoup voyagé quand même.
Il a beaucoup
voyagé. Il avait le rêve de voyager, c'est ça.
C'est ça, il aimait les voyages. Il a connu la Première Guerre aussi.
Ah ben oui, alors d'abord il est parti en Italie, parce qu'en fait il a commencé à gagner un peu sa vie en travaillant chez un libraire. Donc il ne dépendait plus de sa famille. Donc il est parti en Italie. Il a découvert l'Italie. Et puis après, il est allé en Asie. Il a fait l'Inde. C'était son rêve de voyager. Il a fait des beaux voyages.
Un globe-trotteur, en somme.
Oui,
voilà.
Mais ça lui a appris plein de choses. Et puis, il a vu des choses différentes. Donc, ça l'a rempli. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire ses poèmes, en faisant ses voyages. Parce que, justement, il se confrontait à des choses totalement différentes. Et oui, vous me disiez, est-ce qu'il a connu la Première Guerre mondiale ? Oui, il a connu la Première Guerre mondiale. Mais comme lui, il n'a pas été militaire parce qu'il avait des problèmes de maladie.
Ah oui, il était de santé fragile.
Voilà, donc
il est allé quand
même. Il a voulu quand même se mettre volontaire, en fait, pour transporter les blessés.
Oui,
il a fait ça un peu.
Oui.
Et puis bon, il a écrit ses poèmes et il a malheureusement pris parti pour les pacifistes.
Oui.
Et ça lui a été terrible.
Oui.
Ah ben, ça a été terrible. Parce que bon, les éditeurs, les lecteurs, il a reçu des lettres de menaces, mais même des menaces de mort. Parce qu'on était en pleine guerre, il ne fallait pas dire ça. Quoi.
Donc, c'était la Première Guerre, 14-18.
Oui, c'est ça. Pour nous, elle a été terrible.
Oui.
Mais lui, il pensait que ce n'était pas...
Pour eux aussi.
Voilà, pour eux, bien évidemment, bien évidemment.
Et oui, donc il s'est trouvé coupé un peu de la société,
mis
au banc de la société.
Très au banc, donc ça a été difficile, même ses éditeurs, même ses amis, enfin s'il en avait quelques-uns encore, ils étaient complètement plus solidaires avec lui, ils ne voulaient plus parler, donc il était très isolé.
Voilà, on retrouve l'isolement dans le brouillard là aussi.
Si bien qu'après il est parti en Suisse et il a demandé la nationalité suisse.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Il se trouvera plus tard en Suisse. Le paysage n'est pas différent de l'Allemagne, c'est un autre esprit, un autre pays, plus tranquille, qui n'a pas fait de guerre depuis des siècles,
jamais,
Suisse. Donc les choses sont vues différemment, alors que outre-Rhin, le passé est toujours là.
Oui.
C'est valable pour tous les pays. Et donc, il atteint peur personne n'atteindra la sagesse s'il ne connaît aussi les ténèbres. Donc, il les a connues, ces ténèbres.
Bien sûr qu'il les a connues.
Il les a connues. Il a donc souffert.
Oui, mais toute vie, on souffre un peu quand même dans toute vie. Hein.
Bien sûr.
Non,
bien sûr. Rien n'est simple.
Non, rien.
On ne veut pas décourager les jeunes personnes.
Non, mais
il faut savoir.
De toute façon, ils le savent.
Un jour ou l'autre,
on sera confronté à des ténèbres différentes. Mais...
Oui. Et donc, est-ce qu'on peut tirer un bien de ces ténèbres ?
Bien évidemment, parce que si on s'en sort, si on sort de ces ténèbres.
De ces épreuves.
Voilà. Donc, ça fait beaucoup de bien.
Voilà.
Et ça nous conforte un petit peu dans notre vie.
Ça nous endurcit peut-être,
mais oui.
De façon à affronter les premières, les autres vagues, on va dire.
Oui, peut-être les vagues suivantes.
Oui, si on peut dire. Donc en vérité, personne n'atteindra la sagesse, il emploie le futur. Donc c'est un but peut-être, c'est un but affiché.
Mais il parle aussi pour lui,
parce qu'il
ne sait pas s'il a atteint la sagesse quand même.
On ne sait pas, on est toujours en train de cheminer, on va dire. S'il ne connaît aussi les ténèbres, qui en silence, inexorablement, c'est-à-dire on ne peut pas l'empêcher.
Ah non, ça c'est inévitable.
Voilà. Le sépare de toute chose. Oui, qui en silence le sépare de toute chose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là ? Sagesse, ténèbres.
Moi, je sais pas. Le silence, en fait, c'est un peu une petite mort,
oui.
Quelque part.
Les choses qui arrivent sans crier gare, parfois, ou qui préviennent sans prévenir. Et là, il décrit bien ce déroulé de vie.
Moi, alors, c'est ce que j'ai ressenti. Je dois dire que je ne connaissais pas du tout ce poème. Mmh. C'est toi qui me l'a, qui me l'a
proposé.
Oui, oui. Et quand j'ai lu ce poème, j'ai eu cette impression, je me suis dit, mais c'est un déroulé de vie. C'est-à-dire qu'il parle de l'enfance et petit à petit, il s'enfonce dans sa vieillesse. Et bon, avec ses problèmes de vieillesse, hein, mais c'est la vie, quoi, en fait, tout court. Donc,
c'est
tout...
ainsi.
Oui, oui.
Inexorablement.
Oui, c'est ça.
Inévitablement, et en silence, il va y aller tout là. Sans qu'on s'en aperçoive.
Oui, c'est petit à petit, mais
sauf,
bon, c'est comme ça.
Sauf le matin dans le miroir, peut-être.
Oui.
Ben oui. Et il termine son poème en reprenant le premier vers, comme c'est étrange. De marcher dans le brouillard, on dirait qu'il veut insister.
Mais il insiste, oui.
Comme un leitmotiv, comme un fil conducteur. Mais là, on change. La vie tout entière est solitude.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui.
Donc là, ce n'est pas la vieillesse, c'est tout entière pour lui.
Oui, oui.
Donc dès le début, peut-être, enfant, il se sentit seul.
Non, je ne pense pas qu'il pense ça de la jeunesse, mais en fait, c'est son bilan à lui. On ressent ça. Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là. Solitude, vous voyez, parce qu'il est plus âgé, quoi, en fait.
Même si on a des amis, on est quand même seul, parfois.
Ah ben oui, mais oui. Ben parfois, c'est pas mal non plus d'être seul, hein.
Oui, un peu de solitude, parce qu'on se pose,
voilà.
Ça fait un peu réfléchir, se taire, et puis savoir écouter le silence, peut-être. Parce que le silence, il parle beaucoup.
C'est ça.
Nul ne connaît son prochain, oui. Ne connaît son prochain, c'est-à-dire... l'avenir.
C'est ça.
Qui va-t-on rencontrer ?
Demain, ce que sera demain.
Demain, le prochain, terme aussi un peu biblique qui réapparaît, le prochain. Chacun est bien seul. Leitmotiv, on revient
à la
solitude. Comme dans un morceau de musique où certains airs, certaines parties reviennent tout le temps, comme pour les faire distinguer, comme pour essayer de
nous... Puis c'est pour appuyer aussi.
Voilà,
pour appuyer.
Pour insister, pour essayer presque de les ingurgiter, de les recevoir, de les mâcher, disait-on autrefois en Allemagne. Pour insister, chacun est bien seul. On peut reprendre le texte aussi. On va le relire doucement pour ceux qui écoutent, parce que écouter un texte sans le voir, sans le lire, c'est pas évident.
D'accord.
Il faut essayer d'aller lentement. Allez-y.
Comme c'est étrange de marcher dans le brouillard, solitaire est chaque buisson, chaque pierre. Aucun arbre n'aperçoit son voisin. Chacun est bien seul. Le monde était pour moi plein d'amis quand ma vie se déroulait dans la lumière. Maintenant que le brouillard est tombé, je ne distingue plus aucun d'eux.
En vérité, personne n'atteindra la sagesse s'il ne connaît aussi les ténèbres qui, en silence, inexorablement, le séparent de toute chose. Comme c'est étrange de marcher dans le brouillard. La vie tout entière est solitude. Nul ne connaît son prochain. Chacun est bien seul. Nous devons ce poème donc à Hermann Hesse, la série de poèmes est parue dans le volume « Poèmes choisis » qui a été édité en 1994 par José Corti, qui avait aussi le choix et le talent de découvrir des perles comme ça de la littérature française, mais aussi de la littérature étrangère. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Hermann Hesse ? C'est un poète uniquement ou
non,
c'est un romancier ?
C'est un romancier,
oui.
Et puis un essayiste.
Essais.
Puis il a même fait de la peinture.
Oui, c'est vrai.
Il a été peintre aussi.
Mm-hmm. Et dans le sud de l'Allemagne, près du lac de Constance.
Oui,
tout
il
au
a vécu,
bout,
il a vécu dans, au bord du lac de Constance.
Voilà, à Geyenhofen-Uri. Mm-hmm. Je m'y suis rendu. Il y a le musée Hermann Hesse. Et donc, il y a beaucoup de choses qui lui ont appartenu.
D'accord.
Donc, on voit son bureau, on voit son chapeau de paille, sa canne, son porte-cigarette, sa machine à écrire, les stylos, les vêtements, les chaussures. Et c'est un paysage un peu austère, forêt, montagne, lac.
Oui, c'est ça, oui.
Forêt. montagne, lac. Et c'est là qu'il s'était retiré avant de partir en Suisse.
Il partit en Suisse. D'ailleurs, il est mort en Suisse.
Voilà, il est mort en Suisse, côté plutôt italien que oui. Côté roman ou côté alémanique, on va dire.
Il perdait le côté dur de l'Allemagne, en fait.
Voilà, il fallait...
Qui était plus léger.
Plus de doux. En somme, en Suisse, il perdait le côté germanique et retrouvait le côté plus doux.
Latin.
Puisque l'Italie n'était pas loin. C'est un avantage de la Suisse, on va dire. C'est un poème qui est peut-être pas très connu, mais je sais qu'en Allemagne, je l'ai souvent entendu lire, et puis avec un fond musical un peu délicat à trouver. Eh bien, pour commencer, nous allons partir, si vous voulez, en marche, puisqu'il dit que « marcher dans le brouillard », alors, on va marcher avec Schubert, qui adorait marcher. Peut-être qu'il ne va pas à la pêche, mais on a choisi aussi, comme c'est un bon jour, de brouillard peut-être. Pourquoi pas partir chercher une truite ? Eh bien, nous quittons Schubert, qui commençait à courir, après la truite, sans doute. Merci, Jimmy. Et nous avons encore deux, trois petites choses à rajouter.
Oui, parce qu'il a eu des prix.
Il a eu des prix, il travaillait bien à l'école, voilà, notre Hermann Hesse.
Donc, il a eu un prix Bonnefeld, je ne sais pas comment on dit, en 1905.
Oui, Bonnefeld, important.
Et puis, il a le prix Keller, en 1936. Oui. Et en 1946, il a eu le prix Nobel de littérature, voilà, pour son livre Les Jeux des Perles de Verre.
Les Perles de Verre, oui. Donc, il a eu un prix Keller aussi.
Oui.
Oui, oui. Que s'agit d'un poète Gottfried Keller aussi, qui était allemand aussi, mais qui était beaucoup du côté de la Suisse. Et ce Gottfried Keller, il a entretenu une correspondance dont il parlait de la Suisse, il parlait d'Allemagne du Sud, avec un écrivain, lui, qui était du Nord.
D'accord,
et c'est ce Théodore Storm qui nous intéresse, car là aussi, il y a toujours le brouillard au bord de la mer du Nord. Et donc, ce Théodore Storm, 1817-1888, il est né dans une petite ville qui s'appelle Husum, H-U-S-U-M, tout près du Danemark, Allemagne du Nord, côté mer, pas Baltique, mer du Nord, Husum. Maintenant, c'est l'État fédéral du Schleswig-Holstein qui est tout près du Danemark. Husum est à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Mais c'est bas, hein ?
C'est très bas, donc c'est important. Il y a beaucoup de digues dans le secteur aussi, comme en Hollande.
Oui,
voilà,
c'est
comme
ça.
En Hollande. Et en Hollande et en Allemagne du Nord, et en Prusse autrefois, on pouvait faire carrière dans l'administration des digues.
Ah oui, parce qu'il fallait régler ces...
Il fallait surveiller les digues,
oui,
il n'y avait pas les moyens actuels. Donc, il y avait des compagnies de veilleurs de digues et c'était administré d'une façon militaire. On avait des grades. Par exemple, Bismarck avait été capitaine des digues. C'est-à-dire, il habitait presque sur les digues pour surveiller, être là au moindre coup de Trafalgar, on va dire, comme ça. Donc, Husum est à l'origine un joli petit port de pêche spécialisé dans la pêche aux crevettes.
Oui.
Et ça continue toujours. Et on en prenait aussi au petit déjeuner, c'était délicieux avec du thé brûlant.
Oh,
c'était vraiment un vrai bonheur.
Tu trempais dans les...
Oui, on ne les trempait pas, on mangeait côte à côte, quoi. Mais c'était comme ça, voilà. Puisque le repas de midi était à 14h30.
C'est vrai.
Il fallait tenir un coup. Remarquez, ce n'est pas les crevettes qui nous tenaient. Et alors, il y a eu beaucoup de pêches, donc des pêcheries et puis des constructions navales.
Oui.
Mais c'était une jolie petite ville qui, alors, autrefois, était dans l'arrière-pays. Et comme c'était très plat, la mer du Nord est très mauvaise quand elle s'y met, la Baltique aussi, mais surtout la mer du Nord, parce qu'il y a l'influence aussi de l'océan qui est derrière. Donc, ce n'est pas très pacifique, bien que ce soit l'Atlantique. En 1362, il y a un raz-de-marée qui a été énorme et qui est un genre de tsunami, on dirait aujourd'hui, qui a tout rasé. Et la terre qui séparait Husum de l'eau a disparu,
oui.
Si bien que ce village qui était dans l'arrière-pays s'est retrouvé tout d'un coup au bord de la mer.
Ah, c'est ça. Voilà.
Et c'est devenu un petit port qui maintenant est important, très touristique, et beaucoup de constructions navales et aussi exportation de pêcheries, de pêche, de crevettes et tout. Et c'est là que naquit donc ce Théodore Storm. Théodore Storm, 1817-1888. On vivait assez vieux là-haut.
Oui, c'est vrai.
Oui. C'était le bon air marin. C'est l'enfant du pays, on va dire. 14 septembre 1817 au 4 juillet 1888. On a vu que c'était une famille aisée. Le père était conseiller financier.
Ah oui.
En tout domaine. Donc, c'était, on va dire, un notable de la cité.
Oui.
Et très tôt, le jeune Théodore a été baigné dans une atmosphère de travail un peu austère, un peu silencieux, conseiller juridique, financier, un peu diplomatique, un peu. Donc, c'était une époque où les conseillers conseillaient dans beaucoup de domaines.
Oui.
Et l'enfant a été très tôt bercé par les livres austères de droit, si bien que il a été, pas forcé, mais enfin, il a compris qu'il fallait suivre la carrière paternelle.
Mais il était quand même doué, parce qu'il a eu son bac, ce qui était assez rare à l'époque.
Ah, voilà, qui est très bien. Et oui, c'est ça. Il a eu son baccalauréat, c'était rarissime à l'époque.
À l'époque, c'était extrêmement rare.
C'était un véritable concours. De nos jours aussi, ce n'est pas donné, outre-Rhin. Il a eu l'abitur, c'est-à-dire ce qui le habilitait à poursuivre les études. Voilà. Donc, comme vous dites très justement, il a eu au lycée Sainte-Catherine de Lübeck, ville hanséatique, pas loin de la Baltique, il était bachelier et donc il est allé étudier le droit à Kiel, sur la Baltique et plus tard, pour parfaire ses études, on l'envoyait à Berlin où il y avait les grands cours, les grands professeurs et tout. Il est devenu juge. Au début, c'est un juge de paix un peu. L'évolution politique est importante. D'abord, Ouzoum faisait partie du duché du Schleswig. Et puis, en 1864, il y a eu la guerre des duchés. La Prusse lorgnait sur ce territoire,
c'est ça,
qui
oui,
était
oui,
important
oui.
pour avoir un regard sur la mer Baltique bah, et sur la mer.
Ils avaient une ouverture.
Et voilà,
oui, sur c'est le, oui, très important pour eux.
Ça permettait de surveiller discrètement dans le brouillard les Anglais. Et oui. Et donc, la Baltique était importante aussi, surtout vers l'Est. Et donc, ce duché, la guerre des duchés en 1864 a fait que ces deux duchés donc, ont été plus tard annexés à la Prusse.
Ouais, ouais.
Ce que Storm n'a pas bien aimé,
il ne voulait pas. Oui.
Il voulait rester tranquillement dans sa ville, dans sa province. C'est bien qu'il a été rétrogradé.
Ah oui.
Et cela lui a laissé du temps pour écrire.
C'est ça.
On va peut-être dire à quelque chose, malheur est bon. Mais il avait toujours un peu la fibre littéraire. Petit, il écrivait aussi.
Oui, oui.
Son père écrivait du droit. Lui écrivait déjà des poèmes et de la littérature. Mais enfin, il a travaillé son droit. Et ensuite, il finira expert en nombreux domaines. Justement, expert aussi en droit maritime. On pense toujours
c'est
au marais,
très, c'est très important,
important
bien
droit
sûr,
maritime,
bien sûr.
Droit maritime, etc. Donc, il va commencer à écrire, et puis il va écrire jusqu'au bout, 1888. Il y aura, comme chez Hesse, il y aura des poèmes.
Oui.
Il n'y aura pas de dessin, il n'y aura pas de peinture, mais il y aura des romans sur la vie rude, parce que l'ami intime, c'est la mer du Nord. Et l'ennemi intime, c'est aussi la mer du Nord.
C'est ça.
C'est la sagesse et les ténèbres de tout à l'heure, finalement.
C'est l'opposition, c'est quand même incroyable.
Oui, voilà. Oui. La mer apporte une richesse et en même temps, elle vous retire ce qu'il apporte en même temps. Donc, ce sera une famille, on va dire un peu disciplinée. Les enfants sont emprunts de protestantisme.
Oui, c'est ça, ils se sont dédiqués.
C'est la région,
c'est
là-bas.
Ça, oui, oui.
On travaille beaucoup. Le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de l'organisation. On est poète, mais poète un peu à la germanique.
Oui,
c'est
quand même surprenant parce que... Quand même qu'il ait ce côté romantique.
Alors, côté romantique, c'est un romantisme, ce qui n'a rien à voir avec un autre romantique, plus français peut-être,
c'est ça.
Ou plus britannique. Il reste quand même l'empreinte du peuple, du pays, de l'éducation et de l'histoire.
Puis je pense que la religion a un fort impact sur eux.
Eux.
Oui, oui, oui.
Et puis la proximité de la mer, on vit avec
plus,
la mer.
Ben c'est la rudesse de la mer.
Avec
quand même.
La rudesse de la mer,
oui,
tout
oui.
à fait.
Oui.
Et la mer du Nord, quand elle se déchaîne.
Il vaut mieux
rester à quai, si on peut dire. Et pourtant, pour la pêche,
c'est important.
Il faut bien partir
en pleine mer. Oui.
Et le cimetière marin, où les monuments aux marins disparus en mer à Ouzoum sont très émouvants et disent bien la difficulté de l'existence, comme ça sera en Bretagne.
Oui, ça existe en Bretagne,
c'est partout pareil.
Oui,
c'est partout pareil. Et jusqu'à sa vie, il va avoir une vie très active. Très active, il s'occupe de son métier. Il a un rang aussi sous l'Empire prussien qu'il n'aime pas et qu'il va combattre. Il est d'abord quand même nommé sous l'Empire prussien juge et chef de la police.
Voilà, oui.
Ça marchait ensemble. Chef de la police et juge. Mais comme il n'est pas d'accord avec la nouvelle politique, il est démis de ses fonctions et redevient donc juge. Mais finalement, il va réussir. Simple
ça lui
juge.
Va bien.
Mais il est connu, c'est l'écrivain du coin.
Voilà.
Il connaît beaucoup de choses. Il a été aux études. C'est un ancien bachelier. Ils se réunissent chaque premier lundi de chaque mois à l'auberge. Ils ne sont pas nombreux. À Ouzoum, ils ont peut-être 3 ou 4.
Ah oui.
Ils sont très peu nombreux. Donc, c'est aussi une personnalité, mais c'est surtout son côté littéraire qui restera à la postérité. Et alors, cette ville, il l'a beaucoup aimée, mais en même temps, il l'a un peu critiquée aussi, parce qu'il était heureux sans être heureux.
Oh ben, je ne sais pas si, quand on est gamin, on sait qu'on est heureux ou qu'on n'est pas heureux.
Voilà, très bien.
C'est très difficile.
Il y a un peu les deux, c'est mélangé.
Oui, oui, oui.
Il
oui.
aurait voulu voyager aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'il voyait passer au loin les navires.
Les bateaux qui passaient venaient, devant son nez, oh, ça lui faisait envie.
Qui venaient de Hambourg ou qui partaient, ou les navires anglais. Et il était heureux, mais en même temps, il voulait un peu sortir... du côté un peu étriqué de cette petite ville aussi.
Mais oui, il subissait quand même la force de la religion quand même.
Il y avait,
donc,
tout,
il y avait
ça.
Tout ça. Il y avait tout ça à
une
la fois.
Une sorte de...
De mainmise en fait.
De mainmise.
Il avait l'impression d'être...
Donc il voulait un peu s'évader.
Oui,
il
oui.
voulait s'évader.
Il en avait besoin.
Il avait besoin. Et donc la ville, c'était son socle, sa raison de vivre, qu'il voulait quitter...
Mais rester à la fois.
Mais avec l'âge...
C'était l'ambivalence.
C'est ça. Ah,
ben, si je veux rester, je veux partir.
C'était le nid. C'est tout à fait ça. Alors, ce poème, qui est très connu en Allemagne pour les élèves et pour les gens, s'appelle tout simplement La Ville. La Ville, 1852, en allemand, Die Stadt. Die Stadt, S-T-A-D-T. Alors, on va démarrer.
D'accord. Au bord de la plage grise, au bord de la mer grise... Et la ville juste à côté. Le brouillard écrase les toits, et traversée par le silence, la mer gronde, monotone, entourant la ville.
Aucune forêt ne bruisse en mai, aucun oiseau ne chante sans discontinuer. On entend seulement le cri perçant des oies sauvages, filant dans la nuit d'automne, sur la plage d'herbe et soufflée par le vent.
Pourtant, mon cœur tout entier s'accroche à toi. Toi, la grise ville au bord de la mer, la jeunesse enchantée repose, toujours plus souriante, sur toi, toi, la grise ville au bord de la mer.
Merci, voilà. Est-ce qu'on retient la même impression qu'avec Hesse?
Bah, ça ne se passe pas au même niveau. Hein.
Au bord de la mer.
On est au bord de la mer, voilà.
Très bien.
Ça. Donc,
Et avec un soleil méditerranéen éclatant.
Oui, non, pas du tout.
Non, au bord de là.
C'est toujours gris.
Oui,
c'est ça, c'est gris. La mer, elle est grise, tout est gris.
Même le ciel.
Oui, oui.
Même l'âme des gens, oui, peut-être.
Oui, c'est quand même assez triste. Quand on s'aperçoit que la ville est triste.
Tout à fait, oui. Et oui. Il faut y avoir vécu pour dire que le soleil ne brillait pas tous les jours.
Non, c'est ça. Oui.
Mais c'est le climat aussi. C'est très changeant. Il peut y avoir un peu de soleil, puis ensuite pleuvoir... pendant 2 heures et l'après-midi. Une fois qu'on ouvre le parapluie, c'est...
Il faut le refermer.
Voilà, c'est ça, c'est un peu british. La ville juste à côté. Ah, la ville, on ne sait pas le titre. Hein.
Non,
on ne sait pas le nom.
Non,
la ville
pas le
juste
nom de
à
la
côté.
Ville.
Oui, non.
Oui. À côté de la plage.
Voilà. Ah, on retrouve ce cher brouillard. Mais là, il écrase les toits. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de brouillard?
Mais parce qu'il pèse comme ça.
Il pèse.
Voilà, c'est-à-dire qu'il est... Il est en suspens.
Ouais, il est lourd.
C'est lourd, oui.
C'est un brouillard épais.
C'est ça.
Et donc on est
vraiment...
dirait
coupé au couteau.
Oui, un brouillard à couper au couteau, isolé.
Il y a l'obscurité aussi en plus.
Oui, en même temps, pas de soleil, le ciel gris.
Non, c'est ça, c'est tout obscur.
La mer est grise, tout est gris. Et la ville est traversée par le silence.
Mais oui.
Comme dans le texte de poème de Hesse.
Oui.
On retrouve le silence.
Même si ce n'est pas les mêmes lieux.
Oui.
Il y a quand même des similitudes.
Oui. Qu'est-ce qui peut troubler ce silence au bord de la mer?
Un peu les oiseaux, les...
Les mouettes.
Les mouettes. Ah,
les
qui,
mouettes.
Qui ont un cri un peu particulier.
Oui.
Donc, mais c'est la seule chose qui fait... Puis quand même, quand la mer gronde, on l'entend quand même.
Le ressac.
Oui, on entend
On
quand
entend
même.
Les vagues qui...
Et puis, parfois le vent. On entend le vent aussi.
Ah oui, je me souviens, la nuit, c'était pénible parce qu'il y avait des girouettes ou il y avait des antennes, enfin bref. Et pour dormir la nuit, il fallait vraiment ou prendre un remède ou alors autre chose pour bien dormir.
Se mettre souvent, des bouchons d'oreilles.
Oui, oui, oui. Et le matin, on est réveillé, pas par le coq, il n'y en a peut-être pas, mais par les mouettes, là. Et le vent.
Oui, c'est ça, le vent.
Le vent qui siffle.
Oui.
Monotone entourant la ville. Le silence, la mer gronde, monotone entourant la ville. Oui, il ne se passe pas beaucoup, il ne se passe pratiquement rien.
Rien, quoi. Rien du tout.
Aucune forêt ne bruisse.
Oui,
il n'y a pas de forêt là-bas.
Il n'y a rien, c'est ça.
Il n'y a pas de forêt,
voilà.
Ça ne pourrait pas pousser, ça ne pourrait pas... Ce n'est pas la forêt noire, comme on a vu tout à l'heure. En mai, aucun oiseau ne chante sans discontinuité.
Oui, à part les mouettes qu'on entend, oui. Avec leurs cris un peu rauques.
Voilà.
Qui en fait, c'est impressionnant en plus quand il fait obscur, quand on est dans le brouillard. Je pense que ça doit être impressionnant, ces cris de mouettes.
Et on entend la mer, et parfois, et musicalement aussi, on entend la mer. On va donc entendre avec Brahms ces vagues qui viennent mourir sous le rivage. Et nous laissons la mer avec Gisèle qui se retire, mais qui est toujours là, avec le cri perçant des oies sauvages qui filent dans la nuit d'automne.
Oui.
Ça, c'est typique de la région. Ça, c'est un endroit de passage où Zoom, c'est sur la route de ces oies sauvages.
C'est ça.
Et c'est pour ça que pas très loin, au large, vous avez l'île de Heligoland. L'île de Heligoland, où il y a une réserve
un centre ornithologique,
et puis vétérinaire aussi, et ils récupèrent des oiseaux blessés. Et voilà, et cette île de Heligoland est allemande, mais c'est sous l Empire prussien que Bismarck l'a échangée contre Zanzibar. Zanzibar, plutôt vers Madagascar, par là-bas. Voilà, les Anglais, eux, étaient à Heligoland, et la Prusse avait cet îlot loin de chez eux, ça ne les intéressait pas.
Pas du tout intéressé.
Donc Bismarck, pragmatique, a échangé sans problème avec les Anglais. Les Anglais ont récupéré Zanzibar, c'était pour eux sur la route des Indes, ça faisait une base de plus, comme Malte, par exemple. Et puis, les Prussiens, ils ont récupéré cette île, qui n'est pas très grande, et qui leur permettait d'avoir une base et un petit port de guerre, histoire de surveiller la marine anglaise en même temps. Voilà. Et donc, Heligoland, c'est une île qui est en avant. Et donc, c'est très connu pour soigner les oiseaux. Pour soigner
les oiseaux. Voir un hôpital ornithologique.
Au niveau européen, on va dire. Sur la plage, l'herbe est soufflée par le vent. Et oui, la plage, là-bas, il y a parfois des plages d'herbes, d'accord, mais il n'y a pas...
Il n'y a pas de sable, il y a peu de sable.
Peu de sable. Ce n'est pas les plages comme chez nous.
C'est pas comme chez nous.
Il y a de l'herbe, très verte d'ailleurs, qui est arrosée par le vent, par la pluie, etc. Pourtant, mon cœur tout entier...
Ça doit faire des prés salés.
Oui, c'est tout à fait. Oui, c'est très bien. C'est très bien à noter. On va transmettre à Storm, c'est très bien. Et il est enterré dans le parc du château.
C'est ça,
il
voilà.
a un grand un tombeau. C'est l'enfant du pays. Pourtant, mon cœur tout entier s'accroche à toi.
Oui, alors c'est quand même curieux parce qu'il est quand même... on a l'impression de chaos. Et malgré tout, il s'est attaché à cette ville. Donc il est fasciné. Il est entre fascination et terreur, on a l'impression.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
C'est l'ambiguïté.
Ambiguïté.
On ressent là, ça dans le... Oui.
Il voudrait quitter cette ville.
Mais il ne peut pas.
Il ne peut pas parce que c'est l'enfance.
Et puis tout. Ça l'attire malgré tout.
Oui, parce que le paysage, l'atmosphère,
on va dire. C'est ça. Malgré tout ce qu'il peut dire, justement, ça le retient.
Ça le retient.
Ouais,
tout à fait. Mais la maison natale est tout près de la mer, hein. 50 mètres à la maison de Nathan, il est né les pieds dans l'eau, comme on dit, si on peut dire. Voilà, donc mon cœur tout entier s'accrochait très fort. Pourtant, malgré tout ce que je viens de dire, mon cœur tout entier, donc c'est très fort, s'accroche à toi.
C'est ça.
Donc c'est vraiment comme des crochets ou des grappins. Oui. Mon cœur tout entier s'accroche à toi. Toi, il la tutoie, c'est son ami.
Bah c'est chez lui. Hein.
Et la ville grise au bord de la mer. Voilà, on peut dire, une ville grise, ça ne doit pas être marrant de vivre. Oui, mais il faut être de là-bas aussi.
Oui, pour pouvoir supporter tout ça.
Pour pouvoir supporter, avoir une armure.
Mais il a cette attirance irrésistible pour cette ville.
Oui,
voilà,
il est attiré aussi
mais
bien.
Curieusement, on a l'impression qu'il veut, la repousser. Mais non, il ne peut pas.
Et puis le large l'attire pour partir, mais en même temps le retient.
Il est retenu, mais c'est ça.
Voilà, il est retenu par la ville.
Ah ben oui.
La jeunesse enchantée repose. Qu'est-ce que ça nous signifie, ça, cette jeunesse qui est enchantée? Mais elle a été enchantée, elle a été peut-être heureuse.
Bah, quand on était gamin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, les deux poèmes se retrouvent.
Tout à fait. Elle repose, cette jeunesse. Ils ont été heureux, puis peut-être qu'ils sont partis.
Oui, il y en a beaucoup qui ont dû partir.
Peut-être, et oui, comme marins, pêcheurs, ou marins tout court. Ils ont quitté le pays, ou ils ont dû s'expatrier, parce que la seule industrie, c'était la pêche. Il n'y avait que ça.
Oui.
Et après, il y a eu un peu, sous la Prusse, les constructions navales, et puis ça a devenu un port un peu plus important après. Mais la base, c'était la seule industrie, c'était la pêche. C'est bien normal. Mais pour lui, la jeunesse enchantée repose, toujours plus souriante sur toi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Malgré les travers de la de ce qu'il décrit en fait, mais il ne peut pas. Il était inévitablement attiré par cette ville, malgré qu'elle soit monstrueuse, parce que parfois, c'est ça, on ressent cette impression. Hein.
La ville et lui ne font qu'un.
C'est ça.
Lichtat,
elle attire tous les regards, en fait.
C'est ça. Et c'est l'impression qu'on a maintenant. Bon, on est en 2022, mais l'impression que j'avais eue, c'était que j'avais compris, j'y suis pas resté longtemps, mais j'avais compris que natif de cette ville, si on a une forte sensibilité aussi, et puis si on aime la mer aussi, on ne peut pas s'en passer. Ben, et plus tard, quand
C'est ce qu'il décrit.
Quand il était à Berlin... Et il était heureux parce que c'était une ville universitaire.
Oui.
Pour ses études, c'était parfait. De très bonnes universités, Humboldt, par exemple. Mais il lui manquait ce qui lui manquait. Il lui manquait quelque chose.
Sa ville.
Oui, et surtout aussi la ville et la mer.
Et la mer à côté. Bah,
et la mer, et la mer. Je pense à cette légende de cette étudiante qui vient des bords de mer du Nord et qui se retrouve étudiante, qui fait babysitting aussi à Munich, donc, et qui est heureuse. Bon, elle peut travailler, payer ses études,
mais
tout va bien.
Mais elle est un peu perdue
parce que le bruit de la mer lui manque, d'autant plus qu'elle est née sur le fond de mer. Alors le soir, avant de s'endormir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le robinet du lavabo.
Pour
avoir le bruit de la mer. Et parfois, il arrive qu'elle s'endorme et la chambre devient une mare aussi.
Mon Dieu.
Voilà.
Puis vu le prix de l'eau actuellement, ça ne serait pas bien possible.
Oui, ça serait... on dirait que d'eau, que d'eau.
C'est ça.
Toi, la ville grise au bord de la mer, il la tutoie, c'est son ami, c'est son moi, on peut tout dire. La ville grise au bord de la mer, toi. C'est un poème qu'est-ce qui peut inspirer quand on le découvre comme ça? C'est un amour fou, finalement.
Mais en fait, moi, je ne connaissais pas non plus ce poème.
C'est une très bonne chose.
C'est une découverte.
Oui.
Mais en fait, je m'y suis plongée et je me suis mis à la place du poète. Mmh. Et véritablement, quand il décrit sa ville, je me dis, quand même, on est attiré par ça. Parce qu'elle est tentaculaire, quand même.
Oui, oui.
Donc,
elle le capte.
Mais c'est ça, elle l'attire.
Elle le capte, elle l'attire.
C'est ça.
Est-ce que Hesse aussi aurait été attiré par cette ville?
Oh, sûrement.
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 Oui, oui, tous les deux. Si on intervisait, les deux poètes,
ils pourraient être
dans le brouillard.
Ouais, parce que voilà.
Bon, c'est pour ça qu'on a essayé de les faire se rencontrer.
Et ça a marché.
Voilà. Et ça vous a plu. Merci. Merci à Jimmy qui est aux batteries, bien sûr. Merci. Donc, pour rappeler, c'était de Hermann Hesse, Dans le brouillard. On le trouve dans la revue, dans les ouvrages chez José Corti. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis, pour Die Stadt, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais vous trouverez la traduction sur le site internet ou bien sur Husum, H-U-S-U-M, la ville, Die Stadt. Et Theodor Storm vous fera passer peut-être un agréable moment. Voilà, et pour repartir, ben nous repartons aussi en musique, mais là avec un peu plus...
On a parlé d'entrain,
on a parlé de vieillesse, mais ça ne nous empêche pas aussi de goûter un peu à l'entrain et au refrain des vagues. Au revoir, merci.